vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin.
Épisode numéro 99. Hé, Maxime, Radius et Cubitus sont sur un bateau. Chers amis, bonjour. On coule. Un naufrage. Le Titanic. Alors, vous connaissez la petite devinette, la blague. Pince-mi et pince-moi sont sur un bateau. Et pince-mi tombe à l'eau. Qui est-ce qui reste? Et là, c'est Radius et Cubitus, les deux os de l'avant-bras, exactement l'avant-bras gauche. Eh bien, chez Maxime Clavel, ils sont particulièrement fragiles. Oui, signe particulier, Maxime s'est cassé 4 fois le bras gauche, et ce n'est pas une blague, et à 18 ans, c'est une sorte de record. Bonjour Maxime Clavel.
Bonjour Ambroise.
Bon, alors. Alors.
Alors oui, en effet, 4 fois, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. On pourrait reprendre l'historique des fractures, mais je pense que ce n'est pas ce qui intéresse nos auditeurs.
Ah, mais c'est rigolo quand même. Nous, on aime bien rire. Oui. Non, mais voilà, le malheur des autres, parfois, c'est assez amusant. Oui. Alors, je dis tout de suite, vous jouez au rugby et vous continuez à jouer au rugby.
Oui. Oui. Alors, malgré le risque, en effet, j'ai décidé cette année de commencer le rugby en sport universitaire, donc à Sciences Po. Et notamment parce que les fractures remontent déjà un certain nombre d'années, et j'espère.
Et la valeur n'attend pas le nombre des années, mais quand même, remontons, alors il y a les différents diplômes, hein, premier diplôme de fracture de radius, c'était quoi?
Alors c'était en 6e, pendant le cours d'EPS, où on faisait de la lutte, donc avec un camarade, on se prêtait à l'exercice. Et je l'ai renversé et sur mon bras, ça l'a écrasé un petit peu. Et donc je m'en suis sorti avec une légère fracture, certes, mais qui m'a quand même valu quelques mois de plâtre et qui ensuite a fragilisé mon bras et préparant ainsi le terrain pour les fractures suivantes.
Et vos copines mettaient des signatures sur le plâtre ou non, c'était pas...
Bon, alors à l'époque, j'avais pas la chance d'avoir de copines, mais oui, j'avais des signatures de mes amis.
Voilà, alors deuxième fracture...
Oui.
Alors c'est avant le bac aussi.
Oui, toujours. Toutes les fractures ont lieu entre la 6e et la 4e. Et donc cette fois-ci, c'était toujours en 6e, malgré les indications de mon médecin. J'étais allé jouer au foot, toujours avec ce même ami, au parc des Comtades. Et j'étais retombé sur mon bras, puisque le terrain glissait. Et donc là, rebelote, une nouvelle fracture et un nouveau ticket de séjour à l'hôpital.
Troisième fracture,
alors cette fois-ci c'était un peu plus tard. Normalement j'étais censé pouvoir reprendre le sport, puisque mon bras était censé s'être quelque peu consolidé. Mais alors, c'était en hiver, en janvier, quand il y avait beaucoup de verglas sur le sol, et qu'entre amis au collège, on s'amusait à se faire des croche-pattes, ce qu'on appelait des balayettes à l'époque. Et donc il y en a un qui m'en a fait une dans le dos, je suis tombé sur le bras. Et là, de nouveau, cette fois-ci, non seulement le radius, mais aussi le cubitus. Et donc, ça m'a valu cette fois-ci des broches, non pas un plâtre.
Et donc, quand vous passez les zones de contrôle, ça fait pip, 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 non?
Non, le matériau est adapté. Oui.
Voilà. Et alors, la quatrième fracture?
La quatrième fracture, cette fois-ci, c'était en faisant de l'escalade. Donc, en début de quatrième, donc, je pouvais reprendre le sport. Normalement, je suis tombé d'en haut du mur. Donc ce qu'on appelle, c'était de l'escalade en bloc, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de harnais ni de sécurité pour me retenir. Et je suis tombé sur le bras. Et à 4 mètres de hauteur environ, ça ne pardonne pas généralement.
Et vous ne pouviez pas tomber sur le côté droit pour changer un peu?
Peut-être qu'instinctivement, j'ai cherché à préserver ma main droite, puisqu'elle me permettait d'écrire. J'en ai quand même plus besoin que le bras gauche. Bon, c'est vrai qu'avec le recul, peut-être que j'aurais essayé de tomber sur autre chose...
Voilà. Alors, ma question alors tient toujours. Racontez-moi un petit peu votre vie. Alors, Bon, je vais dire, vos deux parents sont dans la médecine.
Oui.
Donc, ça doit les affoler, vos histoires de bras cassés.
Oui, d'un côté, mais ça a aussi été une chance, puisque, pour le coup, j'ai été plutôt bien entouré. Et ils m'ont été d'un grand soutien dans ces moments.
C'est pas un truc un peu, je sais pas, oedipien, freudien, là, pour que vos parents, toubib, votre maman anesthésiste, vous soigne, vous dorlote
Je pense qu'il aurait été préférable de simuler une maladie quelconque plutôt que de me fracturer le bras à plusieurs reprises.
Oui. Est-ce que ça fait mal quand on a le bras cassé?
Ah oui, plutôt, oui.
Oui.
Bah, au cours de ma brève existence, je n'ai pas connu de douleur plus forte que la fracture.
Sur le moment ou c'est après ou...
Alors sur le moment, c'est une douleur qui est assez vive, qui donne presque la nausée. La tête tourne un petit peu. On ne comprend pas trop ce qui arrive. Puis on voit l'angle assez étrange que prend le bras. Et puis après, dans les heures qui suivent, c'est des élancements assez douloureux. Je me rappelle quand j'étais dans l'ambulance pour aller aux urgences, mon bras qui... je sentais les chocs de la voiture sur la route. Puis après, après m'être fait opérer, alors là, le bras gonfle, puisqu'il y a tout ce processus de réparation des os, donc c'est assez inflammé. Et donc là, c'est assez douloureux aussi, mais évidemment, morphine et toutes sortes de médicaments sont prescrits pour atténuer la douleur.
Bon, vous ne faites pas de trottinette, donc il n'y aura peut-être pas de cinquième fracture.
On l'espère.
Voilà. Alors, donc, vous êtes un élève particulièrement brillant, puisque vous avez fait réussi avec succès votre bac, et vous avez réussi Sciences Po Paris. Hein. Mais expliquez-moi d'abord, un peu avant, comment avez-vous passé votre enfance? Vous avez un frère, une sœur?
Alors j'ai eu une enfance somme toute plutôt heureuse. J'ai eu beaucoup de chance d'être né à Strasbourg, dans une ville qui m'est très chère, où je reprends toujours plaisir à revenir pendant mes temps de vacances ou lorsque le week-end me le permet.
Et alors, vous êtes un Alsacien pur sucre?
Je n'irai pas jusque-là, puisque alors, mes attaches familiales ne sont pas en Alsace. Ma mère est originaire de Nantes, mon père de Limoges. Donc j'ai beaucoup de... Ma famille vient plutôt de ce coin-là de la France. Et puis même en Alsace, je m'identifie plus à Strasbourg plutôt qu'à l'Alsace en elle-même. Voilà.
D'accord. Donc, on reprend. Donc, vous êtes un jeune... strasbourgeois, plutôt heureux.
Plutôt, oui.
Voilà. Et vous avez des frères et sœurs. Comment ça se passe à la maison?
Plutôt bien. Alors, ma sœur vient de rentrer de 5 mois passés en Australie. Donc, les retrouvailles ont été plutôt sympathiques. J'ai un plus jeune frère que j'essaye, qui a 6 ans de moins que moi, à qui j'essaye un petit peu de montrer l'exemple, quand même. Voilà, quand je vois qu'il a tendance un peu à s'égarer, à perdre son temps en regardant des choses inutiles sur les écrans. Je lui sors un livre de la bibliothèque, je lui dis, tiens... Essaye de lire ça. Quand j'avais ton âge, je lisais ce genre de choses.
Ouh là 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 là. Parce que vous êtes l'aîné.
Oui, l'aîné, oui.
Et l'aîné, il doit montrer le bon exemple.
C'est ce qu'on dit.
Oui. Voilà. Et vous êtes parti, non pas en Australie, mais au Canada.
Au Canada, c'est cela, pendant 3 mois, en seconde. J'étais dans une famille d'accueil. C'était une expérience très enrichissante qui m'a, au-delà d'améliorer mon niveau d'anglais, de découvrir une culture nouvelle, mais aussi de gagner en autonomie, je pense.
Et alors, vous étiez dans quelle ville?
Alors, j'étais à Windsor. C'est une petite ville qui n'est pas très sympa à visiter, mais bon, pour 3 mois, ça fait l'affaire.
C'est près de Toronto?
Non, c'est dans l'Ontario juste en face de Détroit. Donc voilà, on voit la rivière dont j'ai oublié le nom, qui constitue la frontière, en fait, entre les États-Unis et le Canada. Et puis, on voit le bâtiment de Chevrolet.
Detroit.
Ouais, de l'autre côté de la rivière.
Voilà. Et donc là, vous avez amélioré votre anglais. C'était dans le cadre d'Erasmus?
Non.
Non.
C'était avec un organisme qui supervisait le voyage. Et donc, j'étais scolarisé là-bas, comme tout élève canadien, normal, pendant 3 mois.
Et vos parents ne vous manquaient pas? Non.
Alors j'étais content de les retrouver,
à
mais
15 ans,
à 15 ans, on est content de sortir un peu du nid.
Oui.
Oui, et de voler ses propres ailes.
Voilà. Et alors dans une ville comme ça, Windsor, je ne sais pas, il y a combien d'habitants? C'est une grande ville ?
Non, c'est pas une très grande ville. Je pense qu'il y en a moins de 100 000.
Mm-hmm.
Donc évidemment, c'est des villes qui sont assez différentes de celles qu'on peut retrouver en Europe, sur le modèle nord-américain, avec des quartiers résidentiels constitués de pavillons qui s'étendent à perte de vue, sans réel centre-ville historique. La plupart de la vie sociale se fait dans le mall, donc dans ce grand centre commercial situé un peu en périphérie, avec des cinémas, des magasins, des restaurants, des salles d'arcade, des bowling, ce genre de choses. C'est pas...
À 15 ans, on est friand de vie culturelle, par exemple.
Oui.
Alors, bon, il y a le cinéma, bien sûr, mais est-ce qu'il y avait autre chose ? Est-ce qu'il y a des chorales ? Est-ce qu'il y a des clubs de théâtre ? Est-ce que vous avez eu le temps de fréquenter cette vie culturelle ? Dans la famille où vous étiez, il y avait des gens de votre âge ?
Alors, moi, c'était un peu particulier, puisque j'étais dans une famille d'origine philippine. Donc, c'était des travailleurs qui avaient immigré au Canada, voilà, pour... des raisons économiques. Et donc, j'ai beaucoup baigné dans cette culture philippine, c'est-à-dire qu'ils invitaient régulièrement leurs amis pour participer donc à des événements, voilà, faire des fêtes. Généralement, c'était plutôt du karaoké. Ils en sont très friands. Et puis aussi, il y avait tout l'aspect culinaire. Et donc, au-delà de ce cadre-là, je n'ai pas pu trop profiter de l'offre culturelle de la ville.
Non, mais alors, vous avez appris des recettes... des Philippines, oui. Quel est le plat préféré des Philippins ?
Alors, ils mangeaient beaucoup de riz et de poulet, mais aussi parfois du poisson. Donc, il y avait différentes manières de le préparer. Je me rappelle, ça c'était assez marquant, c'était une espèce de poisson fermenté. Alors, je n'en ai pas goûté parce que l'odeur ne me déplaisait assez. Mais le matin, quand je me levais... et que j'allais prendre mon petit déjeuner, il y en avait souvent qui étaient laissés à disposition sur la table, et ils mangent ça donc pour le petit déjeuner.
Oui.
Voilà.
Pourquoi pas ?
Pourquoi pas ?
Oui, bah, y a bien des Alsaciens qui mangent de la saucisse hein, au petit déjeuner, et le soir, on mange le café.
Oui.
Voilà. Très bien. Donc, et vous avez reproduit... Est-ce que vous avez, quand vous êtes rentré à la maison, vous n'avez pas dit « Maman, je fais la cuisine ce soir » et vous avez fait un plat de manille, non ?
Non, je ne me suis jamais trop intéressé... à la cuisine.
Voilà. Il y a d'autres Alsaciens qui sont partis aux Philippines, mais on ne va pas... voilà. Peut-être qu'un jour, ils reviendront et nous enseigneront des recettes.
Tout à fait.
Voilà. Alors, ne faites pas le modeste. Vous êtes un très bon élève hein, au lycée. Comment on fait pour être un bon élève ? On bosse 18 heures par jour, le samedi et le dimanche ou... Ça vient tout seul ?
Alors, je n'ai pas la prétention d'être un exemple à suivre en la matière, mais je pense que la première chose à faire, déjà, c'est d'être attentif en cours, faire montre d'une qualité d'attention qui nous permettra de mieux synthétiser les informations, de mieux se les approprier pour ensuite les restituer. Ensuite, un deuxième élément, je pense, c'est se mettre à la place du correcteur, toujours se demander ce qu'il attend de nous et comment y répondre au mieux. Et je pense que c'est déjà de bons moyens pour éviter un travail trop conséquent et laborieux à la maison.
Est-ce que dès la troisième, la seconde, vous saviez que vous étiez un super bon élève et que ça marchait bien ?
Alors j'ai toujours eu des notes qui étaient plutôt satisfaisantes,
bonne.
Oui.
Mm-hmm.
Et donc mes parents m'ont toujours poussé aussi à donner le meilleur de moi-même, donc c'est en partie grâce à eux que j'ai pu réussir. Mais je pense que c'est surtout au lycée que je me suis motivé, puisque j'avais donc l'échéance Parcoursup qui se profilait à l'horizon de ma terminale. Donc c'était une étape à ne pas manquer.
Mmh. Est-ce que, alors avec le recul, hein, vous êtes un vieux puisque vous avez 18 ans, mais est-ce qu'à 15 ans, 16 ans, on a un complexe de supériorité ? Par rapport à les petits cons qui vont redoubler, qui perdent leur temps dans les réseaux sociaux et des choses comme ça.
Oui, je pense.
Oui.
Mais ce n'est pas l'apanage des garçons de 15 ans. Je pense que c'est quelque chose qui peut nous suivre bien au-delà.
Oui, ou même déjà à l'école maternelle.
Oui, même à l'école maternelle.
Oui. Mais quand même, la conscience qu'on va faire des choses qui permettent de se projeter dans l'avenir. Oui, parce qu'un jour, vous serez ministre. Non.
Il est peut-être un peu tôt pour le dire. Ce serait.
Mais c'est une ambition.
Une ambition, j'irais peut-être pas jusque-là. Je suis très attiré par la haute fonction publique. Donc Sciences Po est le cursus qui me permettrait au mieux, je pense, d'atteindre cet objectif. Après, je pense que la vie est aussi faite d'hasard, d'opportunités, de rencontres, qu'il s'agit de saisir pour pouvoir aller le plus loin possible. Mais je pense qu'il est encore trop tôt de dire...
Si mais après l'ENA, vous allez faire quoi?
Encore faut-il être pris au concours.
Oui. Ah, donc vous y pensez?
J'y pense.
Oui. Tous les matins en vous rasant. Enfin, vous n'avez pas encore de barbe ni de moustache, mais vous y pensez, oui.
J'y pense, oui. Ben, c'est bien, je pense, d'avoir un objectif à suivre. Voilà, comme une boussole un petit peu pour nous guider et pouvoir conserver la motivation de travailler et de s'améliorer.
Oui, alors Maxime Clavel, on retient votre nom parce que quand même, ça c'est quand même... moi, je dirais, en tant que journaliste sur Radio Judaïca Strasbourg, que c'est assez jubilatoire d'avoir un invité qui a comme ça cette certitude, cette modestie aussi, cette pertinence, cette sympathie. Enfin, je vous tresse des lauriers, mais... C'est quand même assez rare par rapport à vos autres copains qui ont le même âge que vous, non? Comment est-ce que vous vivez ça? D'abord, est-ce que vous perdez votre temps avec des gens qui ne sont pas aussi performants que vous?
Non, parce qu'il n'y a pas que la performance dans la vie. Il faut aussi réussir à s'en détacher. Moi, quand je fréquente mes amis du lycée, je ne pense pas à ce qu'ils vont faire plus tard, forcément. C'est aussi des moments qu'on peut passer simplement autour d'un verre, à rire, à ressasser les souvenirs. La performance est quelque chose, je pense, qu'il faut quand même détacher de sa personne. On ne peut pas juger de la valeur d'une personne en fonction de sa performance.
Pas de sa performance, mais il y a quand même les affinités électives, oui. Alors pas seulement amoureuses, mais aussi, je dirais, strictement culturelles. Oui. Si vous avez des copains qui n'ont rien lu... qui n'écoutent pas la musique, je sais pas, qui ne s'extasient pas devant, je sais pas, le Requiem de Mozart ou la Flûte enchantée, ou qui n'ont aucune culture, aucune connaissance, qui confondent Napoléon et Jules César, et qui, voilà, vous n'allez pas passer du temps avec eux, si?
Alors, je suis quand même un jeune de 18 ans, donc on a des références qui sont communes au sein
c'est
de la génération.
C'est pas un pléonasme, hein, jeune de 18 ans, non, d'accord. Donc vous avez des références communes, oui, dites-moi.
Oui, des références communes, c'est cela. Et puis, la conversation ne se cantonne pas qu'à la culture ou à ce genre de choses. Après, c'est des conversations qui sont toujours édifiantes et intéressantes d'avoir, mais je pense qu'il faut savoir varier les registres. Voilà, quand je suis en soirée avec mes camarades, je ne pense pas forcément au Requiem de Mozart.
J'ajouterais... Que vous aimez bien ?
Ouais, j'ajouterais plutôt que je suis un grand auditeur de rap. De rap français, oui, comme la plupart des jeunes de mon âge, je ne fais exception à la règle.
Oui. Et vous comprenez les paroles?
Pas toujours. Mais alors, dans ce cas, il faut lire les paroles, et puis sinon... Alors, il y a un site qui est assez pratique, qui s'appelle Genius, et donc là, il y a des volontaires qui font l'analyse des paroles,
oui.
Quand il y a des mots, parfois, de vocabulaire un peu alambiqué.
Alors, je vais vous poser une question d'un vieux con, hein, c'est moi. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous connaissez Jacques Brel, Léo Ferré, Georges Brassens?
Alors, Jacques Brel, j'apprécie beaucoup, oui.
Oui,
oui. C'est quelque chose que j'écoute.
Et ce sont vos parents qui vous ont incité à écouter, par exemple, Jacques Brel?
Alors, Jacques Brel, oui, j'en ai déjà écouté avec mon père dans la voiture. Je pense que c'est quand même quelque chose qui m'a influencé. Après, il écoutait d'autres styles de musique, beaucoup de rock. Là,
oui.
Un trait culturel propre à sa génération.
Deep Purple.
Plutôt AC/DC, Metallica, Rage Against Machine aussi.
Ah ouais.
Voilà.
C'est un environnement formidable, ça.
Oui.
Ouais. Est-ce que votre père écoute du rap?
Alors.
Il a quel âge, votre papa?
Il a 45 ans environ.
Ah ouais, environ.
Oui. Environ.
Ah oui, oui.
Voilà.
C'est un vieux, hein.
Oui.
Oui. Bon, je vous dis pas mon âge, mais.
Non, mais il est assez ouvert musicalement parlant.
Oui.
Donc ça m'arrive parfois de lui faire écouter certains morceaux que j'écoute. Des fois il apprécie, des fois non. Plus non que oui, généralement. Mais il écoute du rap. Après, le rap est un style musical qui est quand même assez vieux si on remonte. Suprême NTL. Oui.
Alors, j'oublie toujours son nom, et je prie d'excuser les auditeurs. Là, c'est
Ayam, le groupe
Non.
Aya Nakamura, non.
Voilà, c'est
oui.
Ça.
Oui, bon, alors ça, c'est pas vraiment du rap, c'est plus de la pop.
Ah bon, d'accord.
Mais ça, c'est pas une artiste.
C'est pas de la musique, non.
Si, c'est de la musique.
Ah, c'est de la musique, quand même.
Si, oui. C'est de la musique.
Parce qu'on l'a tellement dénigrée, on s'est moqué d'elle et tout, donc a priori, on a de la sympathie, simplement parce qu'il y en a qui disent du mal d'elle.
Non, mais je pense pas qu'on puisse lui coller...
J'ai essayé d'écouter, franchement... Ouais.
je pense pas qu'on puisse lui coller l'étiquette de rappeuse. Après, alors si on fait référence donc, à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, je pense quand même qu'elle était légitime pour performer, dans la mesure où c'est quand même l'artiste féminine francophone la plus écoutée dans le monde.
Oui, alors ça, c'est de la pub, c'est vrai. Qui a vérifié ce genre d'assertion?
Alors, il suffit de regarder sur les plateformes de streaming.
Ah, d'accord.
Le nombre d'auditeurs par mois, ou alors sur YouTube, le nombre de vues. Et on se fait une idée de l'ampleur du phénomène.
Ce qui est rigolo, c'est quand elle se trémousse au milieu des militaires, enfin, des gardes nationaux qui sont en bas de l'Élysée, là, et qui visiblement se marrent. Ça, c'est pas mal.
Oui, il y avait un côté assez décalé, je trouvais, qui tranchait avec la solennité du reste de la cérémonie.
Ce côté un peu, insolent. Hein.
Oui, tout à fait.
Ça, c'était le côté sympa. Oui. À part ça, la chorégraphie, c'était mauvais, non? Je sais pas.
Enfin, oui. Pas un style musical auquel je suis très sensible, pour ma part.
D'accord.
Voilà.
Et est-ce que vous faites de la musique?
Non.
Non. Ah, voilà, il y a quand même des failles cette culture. Non. Et par manque de temps, ou c'est parce que le bras gauche est tout le temps dans le plâtre, donc vous ne pouvez pas faire du violon
Alors, mes parents m'avaient proposé d'en faire en étant petit. J'ai toujours été assez rebuté par les cours de solfège, il faut dire, qui m'ont découragé à commencer la musique.
Et vous n'êtes pas bon en maths, par exemple? Non.
En maths, bon, on ne peut pas dire que j'ai la bosse des maths, mais avec du travail, je me débrouille.
Mais alors, bon, en tant qu'un peu plus de 18 ans, je vous recommande d'écouter Bach, Jean-Sébastien, vous connaissez. Il y a des coffrets où vous avez, 200 CD de Bach. Et vous pouvez lire des biographies de Bach et sur les relations entre Bach et les mathématiques. Mais c'est génialissime. C'est jubilatoire, c'est bien, c'est d'une intelligence. Enfin, on écoute ça, on se dit, punaise. Et alors, après, on écoute un rappeur. Excusez-moi. Non, mais là, je joue vraiment au vieux schnock. Là.
Après, le rap a ce pouvoir d'identification, surtout chez les jeunes. Alors, je ne prétends pas m'identifier à tout ce qui est dit, ça dépend aussi des thèmes qui sont abordés. Alors que je pense qu'il est quand même assez difficile de s'identifier à une musique presque scientifique, du moins réalisée scientifiquement, enfin, puisque vous parlez de ce lien entre les mathématiques et la musique de Bach. Après, je pense qu'il faut quand même faire montre d'une certaine ouverture et de varier un peu les registres musicaux. L'ouverture n'a jamais fait de mal à qui que ce soit.
D'accord. Alors, Maxime Clavel, vous êtes donc à Sciences Po Paris, qui a une succursale, en gros, je ne sais pas comment on dit.
Oui. Campus délocalisé, on dit.
Un campus délocalisé à Nancy, ce qui vous permet de rentrer de temps en temps le week-end à la maison pour amener le linge sale à votre maman.
Tout à fait.
Hein, voilà, c'est ça. Et donc, est-ce qu'il faut bosser comme un dingue quand on est en Sciences Po?
Non.
Non?
Alors, je pense que le plus dur à Sciences Po, c'est d'y rentrer.
Oui.
Et encore, la difficulté est quand même assez relative avec du travail et la motivation.
Et des profs qui vous poussent?
Oui, des profs qui nous poussent.
Est-ce que les profs sont fiers de vous?
Je pense que c'est à eux qu'il faut poser la question.
Oui.
Mais j'ai eu le plaisir, pendant ces vacances, de retourner dans mon lycée pour récupérer mon diplôme du baccalauréat et de retrouver certains de mes anciens professeurs, notamment ceux de la spécialité histoire-géo-géopo, avec lesquels j'ai eu le plaisir d'échanger. C'était vraiment un moment agréable. Puis après, j'ai pu passer dans certaines salles de classe pour représenter Sciences Po aux élèves.
Ah oui,
voilà.
Au futur.
Au futur, je l'espère.
Futur, voilà.
Je leur souhaite.
Et alors, maintenant, là, en 30 secondes, bon, première année, deuxième année, troisième année, hein, Sciences Po.
Alors, moi, je suis dans un double diplôme avec la Freie Université de Berlin, ce qui veut dire que je suis censé faire 2 ans à Nancy, puis 2 ans à Berlin, au terme de 4 ans, au terme desquels j'obtiens une double licence. Puis ensuite, je compte enchaîner avec un master à Sciences Po Paris.
D'accord.
Et tous les masters sont concentrés à Paris.
Et vous parlez anglais, allemand?
Je me débrouille.
Espagnol?
Espagnol, j'ai commencé cette année.
Voilà, bien sûr.
Donc, j'en suis encore à mes débuts, mais on essaye de s'améliorer.
Je pense qu'il y a plein de parents, alors j'ai l'honneur de connaître votre maman, il y a plein de parents qui aimeraient bien avoir un petit Maxime de 18 ans avec des choses comme ça. Donc, félicitations, pardon, non pas aux parents, félicitations à la fierté des parents. Parce que je trouve que c'est quelque chose quand même on se moque de ça, et puis dès qu'on a un enfant, bon, moi j'ai une fille qui a 27 ans, eh bien, on ne peut pas s'empêcher d'adorer, enfin d'avoir une fierté énorme et de pouvoir raconter tout ça, voilà. Écoutez, Maxime, dans 10 ans, quand vous serez ministre, vous direz « Ah ben oui, je suis passé à la radio, c'était vachement sympa. »
Mon premier passage à la radio.
Eh ben voilà, merci beaucoup. C'était l'épisode numéro 99 de « Vous l'avez bien connu ». Et Maxime, Radius et Cubitus sont sur un bateau. La semaine prochaine, nous fêterons notre 100e épisode. Et là, cela méritera une petite surprise. Nous essayerons de parler un petit peu de comment ça fonctionne la radio avec, je vous dis pas, une surprise. Vous l'avez bien connu sur Radio Judaïka Strasbourg, 102.9 FM, à la technique Thomas Marinelli, tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi. Et mon nom est Ambroise Perrin. Fellows me.